101.5 FM.
Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enrasé les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas.
Chroniqueuse ce soir dans Imaginaire.
Eh oui.
Tu vas nous parler de Maître des Jeans.
Exactement, de l'auteur Federson Jelly Clark, si je n'écorche pas son nom.
Un livre que tu nous as présenté jeudi dernier à la médiathèque Toussaint. C'était
oui,
notre petite soirée où on présentait des coups de cœur de l'année, mais surtout des livres primés.
Oui.
Et lui, il a eu pas mal de trucs, hein.
Oui, il a remporté notamment le prix Locus dans la catégorie premier roman en 2022 et le Nebula dans la catégorie meilleur roman en 2021.
Et en deuxième partie d'émission, on va s'écouter l'interview de Betty Piccioli, dont tu avais présenté le dernier roman dans notre dernière émission.
Oh voilà, tout à fait, Robustia.
Voilà. Et donc du coup, c'est toi qui l'as interviewé aux Utopias, là.
Oui, c'est également moi qui l'ai interviewé.
Avec un petit portrait chinois, ouais. Comme Pierre-Marie en a le secret. Donc oui, on va s'écouter ça tout à l'heure sur le 101.5, mais on commence avec un petit peu de musique. Retour en 1983 sur le 101.5.
Your case with black.
écouter The Fix, groupe de New Wave anglais. J'ai découvert ce morceau assez récemment en regardant un film, The House of the Devil, je crois, de Ty West. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Non,
et c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve à babysitter pour un couple de personnes âgées qui sortent. Et bon, voilà, elle arrive dans une ambiance plutôt inquiétante, genre elle n'a même pas le droit de montrer à l'étage, voir ce qui se passe. Et bon, elle se remonte un petit peu le moral en écoutant cette chanson dans son Walkman. Elle vide le frigo des gens et tout. Elle est une petite teuf toute seule pour pas trop s'ennuyer. C'est le seul moment positif du film, je pense.
D'accord.
Film de Ty West dont le petit dernier, la X. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est aussi, on va dire, un hommage au film d'horreur de la fin des années 70, début des années 80. Sorti en France quand même dans quelques salles il y a un mois. Et là, pour le coup, il a demandé à Chelsea Wolfe, je crois, de lui faire la musique. C'est très différent. Et donc, The Fix, que j'ai redécouvert par ce morceau, c'était un extrait de leur deuxième album en 83. Et ils avaient une pochette de George Underwood. Et je me suis renseigné un peu sur ce monsieur, parce qu'il a aussi fait des illustrations de romans de SFFF.
Ah oui, d'accord.
C'est un dessinateur anglais. Et en fait, George Underwood, c'était un copain d'école de David Bowie.
Okay.
Et du coup, il lui fera quelques pochettes quand même dans la carrière de Bowie. Et c'est lui qui a donné un gros coup de poing quand ils avaient 15 ans dans la tronche de Bowie, lui abîmant ainsi une pupille. Ce qui explique que Bowie avait deux pupilles de taille différente, je crois. Enfin, il souffrait d'anisocorie, je crois. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et du coup, on croyait qu'il avait les yeux de couleurs différentes.
Ok.
Bravo, George Underwood. Ouais. Bon, allez, je vois que tu trépines, je te mets ton générique.
Alors, donc Federson Jelly Clark nous entraîne au cœur d'une Égypte en proie à une insécurité politique. En effet, nous allons suivre une inspectrice nommée Fatma qui travaille pour le ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Elle va faire face à une enquête sur l'assassinat de la fraternité d'Al-Jaïz par le prétendu Al-Jaïz. Celui-là même qui a, il y a une cinquantaine d'années, et de par ses expériences, puisque c'est un mage, ouvert une brèche afin que le monde des humains et des djinns se côtoie. Mmh. Donc, dans un contexte politique et social déjà tendu, cette affaire rend l'Égypte, et tout particulièrement le Caire, encore plus insécure. Fatma se lance donc à la recherche de ce mystérieux individu. Forcément, les péripéties commencent. Maître des djinns nous ramène dans l'univers de deux précédents textes de l'auteur, L'étrange affaire du djinn et le mystère du tramway hanté. Ainsi, des références sont présentes dans le récit sans pour autant en gêner la compréhension si vous n'avez pas lu ces textes.
C'était sorti en français aussi, ça ? C'est deux.
Oui, oui, ouais, oui.
D'accord, okay.
Tout à fait, si je ne dis pas de bêtises, oui. L'univers du roman est très recherché, comme l'illustre le vocabulaire arabe utilisé par l'auteur pour ancrer culturellement son récit, et des références littéraires telles que Tolkien sont présentes.
Mm-hmm.
Donc, Fenderson,
Jelly
Clark, donne donc vie à ses personnages et son univers comme s'ils étaient vraiment réels et met en avant un monde mêlant un surnaturel magique et technologique.
Ouais, parce que c'est quoi des djinns, du coup, chez lui ?
Ah, ben, c'est des génies, en fait.
Ouais, d'accord,
c'est
ok. Des sortes de génies. C'est bien l'image ouais. Ok, ils sont pas forcément méchants ou...
Là, ça va dépendre, justement, de ces personnages.
Cohabitent avec les humains, en fait.
Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais, mais ça développe aussi des tensions, d'énormes tensions, d'ailleurs, dont on va apprendre petit à petit...
Donc, et en fait, donc il y a une mixité comme ça, c'est un peu comme dans les histoires de Lasser de Philip Ward où ils évoluent au milieu des dieux.
Oui. Okay. Oui, oui. Et donc avec ce roman, il transmet beaucoup de messages, celui de la tolérance face à la différence, autant sur du féminisme que le racisme et le colonialisme. Il met en évidence une critique à la fois sociale et historique. Donc l'auteur a passé la majorité de sa vie au Texas, mais il a vécu ses premières années dans les Caraïbes. En parallèle de son écriture, et il est historien et chercheur en études comparées de l'esclavage et de l'émancipation dans le monde atlantique. Ça se ressent beaucoup. Mais justement, c'est très intéressant et très instructif à la lecture. Maître Delgin est son premier roman, donc a remporté pas mal de prix déjà.
C'était son premier roman?
Oui.
Ouais. Et je croyais que c'était le troisième tome d'une trilogie, moi j'ai rien compris. Non, c'est le premier tome.
Non, c'est un premier roman qui reprend l'univers de deux textes qu'il a fait précédemment.
Ah, d'accord.
Mais sans aucun rapport, il n'y a pas de tome en fait, de numéro de tome.
Ah bon.
Et donc par contre, sa dernière parution, Ring Shout,
ouais, c'est ça, ouais.
a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix de la traduction Jacques Chambon en 2022. Le Locus Awards en 2021, le British Fantasy Awards en 2021, le Nebula Awards en 2020 et dernièrement le prix Julia Verlanger en 2022. Et cette nouvelle a été annoncée aux Utopiales.
Je ne vous explique pas tout ce que c'est que ces prix-là, je l'ai déjà fait à la bibliothèque jeudi dernier.
Voilà. Donc je vous invite chaleureusement à découvrir cet auteur et sa meilleure... sa belle plume au travers de ses récits. Pour suivre...
Attends, alors tout ça c'est sorti chez La Talente quand même, on le précisait.
Oui.
Donc Green Shout et aussi Maître des Jeans, Le Mystère du Tramway Hanté et Les Tambours du Dieu Noir.
Oui, tout à fait. Et pour suivre, je vous propose l'écoute de la chanson Austerity du groupe Catatonia sur Radio G.
Aucun rapport avec le livre.
Eh non, pas cette fois.
Kill.
Catatonia, donc leur tout nouveau morceau en fait, hein, leur album sort dans un mois. D'après ce que j'ai vu, c'est marrant que tu aies choisi ce morceau parce que le clip, je sais pas si tu l'as vu.
Rapidement.
Il est fait à partir de dessins créés par intelligence artificielle.
Eh les gars,
il y a un gros débat
alors,
en ce moment.
Alors c'est pour relancer cette histoire de polémique. J'aime beaucoup les polémiques a priori.
Ben, on est en plein dedans en ce moment.
Totalement inconsciente.
Ouais, qui met un petit peu en ébullition, on va dire. Au moins le milieu des artistes de l'imaginaire. On va parler un petit peu des news de l'asso. D'abord, notre prochain événement, ce sera encore à la médiathèque Toussaint. On en profite avant qu'elle ferme au mois de mai prochain, pour 3 ans, pour rénovation. Donc, on va participer à la nuit de la lecture, dont le thème national est la peur.
En effet.
Alors, normalement, l'événement dure 4 jours, mais à Angers, je pense qu'on fera que le samedi.
Oui.
Alors, c'est quoi, le 21 janvier, c'est ça?
Ouais. En effet.
Voilà, ce sera la soirée après la fermeture de la bibliothèque, en fait. Mais oui. Bon, il y aura aussi des animations dans d'autres bibliothèques et puis dans certaines librairies. Et le thème étant la peur, eh ben, l'association Imagina va refaire un blind test. C'est plus qu'un quiz, parce qu'il y aura aussi, je pense, des chansons à retrouver. Donc, on scindera probablement le public de la bibliothèque, comme la dernière fois, en deux. Et puis, ce sera surtout des questions de rapidité. Bon, on y parlera aussi, forcément, de littérature de l'imaginaire, et puis aussi de films d'épouvante. Hein.
Oui.
Surtout que, bon, c'est notre ancienne chroniqueuse Beth Green qui s'occupe de faire les questions. Donc, je sens que ça va être très tourné film d'horreur.
Possible.
Et puis, moi, personnellement, j'animerai aussi une partie du jeu de rôle monstre, dont j'ai peut-être déjà parlé dans cette émission, qui est tiré des bandes dessinées de Johan Svarr, notamment la série Vampire et puis Aspirine aussi, où les joueurs vont incarner un peu tout type de monstres. Des vampires, des loups-garous, des choses comme ça. Alors c'est assez satirique, mais c'est un peu... je pense que le thème de la peur sera bien représenté dans cette petite histoire. Et puis le gros événement ensuite, pour Imaginaire, ce sera l'Angers Geek Fest. Donc ce sera les 1er 2 avril au Parc des Expos. Mmh. Et on a quasiment bouclé notre programmation, parce que comme tous les ans, on accueille des gens sur notre stand. Donc je peux vous dire que on aura sur notre stand Étienne Barrier, qui est quelqu'un qui a écrit les Brigades du Steam avec Cécile Duquesne, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des essais au Mouton Électrique et chez ActuSF, surtout sur le steampunk. Alors le thème cette année, c'est utopie-dystopie. Hein,
oui.
Il me semble de l'AGF. Donc on aura une table ronde steampunk-cyberpunk. Qui sera animé par Pierre-Marie. Donc avec Étienne Barrier, puis un autre intervenant, alors ça c'est pas encore complètement confirmé je crois, donc je vous en parle pas. Et puis on aura aussi une table ronde, la moralité dans l'imaginaire, avec Aurélie Wellenstein, qu'on avait reçue l'année dernière dans notre salon et aussi à la bibliothèque, le vendredi qui précédait, où on avait parlé pas mal de littérature de l'imaginaire et de la place de l'animal, qui est un peu une de ces... spécialité, je dirais,
oui.
À Aurélie. Et puis, l'autre intervenant, ce sera Karim Berouka, dont Pierre-Marie nous a dit beaucoup de bien sur son petit dernier chez ActuSF, Pam Pam. Karim, dont on a écouté l'interview donc avec son illustrateur Zariel dans cette même émission il y a 2 semaines, que vous aviez aussi faite aux Utopiales. Et puis, que dire de plus? Alors, on aura aussi probablement Tony Emerio et Boris Beuzelin, hein, toujours pour leur série de comics Paria. Et puis, un certain Max Rickers aussi, qui est quelqu'un qui écrit de la fanfiction de Star Wars.
Intéressant.
Voilà. Et puis, peut-être une ou deux personnes en plus. Et puis, voilà, on aura donc un stand imaginaire les 2 jours là-bas. Il y a un partenariat qui est en train de se monter en ce moment entre Radio G et l'AGF. Donc je pense qu'on aura aussi le studio mobile en direct de cet énorme festival pendant 2 jours. Donc il y aura peut-être plein d'émissions sympas qui se feront en direct. Voilà, voilà. On se refait une petite pause musicale avant d'écouter l'interview de Betty Piccioli. J'étais en train de parler de Karim Berouka. Donc on va s'écouter un morceau de Ludwig von 88, dont il est toujours le chanteur. Le groupe fête ses 40 ans, je crois, et fera une énorme tournée l'année prochaine. Et on va s'écouter un morceau du dernier album. Je pense que c'est Karim qui chante sur ce morceau. Pas facile à reconnaître parce que c'est un pastiche de Bon Scott. Tu vas voir ça sur le 101.5. Ludwig von 88 dans
ton cul.
Ah, je m'en doutais. C'était trop facile. Dans Imaginaire sur le 101.5 avec AC/DC cherche un chanteur, un extrait de leur dernier album, c'était en 2019, 20 chansons optimistes pour en finir avec le futur. Du coup, c'est, je pense, c'est une bonne idée d'inviter Karim à parler de la moralité dans l'imaginaire, que les utopies et les dystopies changent les paradigmes. On a déjà le titre de notre table ronde, qui sera le 1er ou le 2 avril. Et on n'a pas le droit de dire que Ludwig von 88 sera au Hellfest, puisque ça n'a pas été annoncé officiellement.
Pourtant, tu le dis.
Non, mais tous les jours, ils te mettent des dessins sur leur site, le Hellfest, on se demande ce qu'ils foutent. Enfin, bref. Allez, on s'écoute l'interview de Betty Piccioli que tu as réalisée il y a quelques semaines aux Utopiales de Nantes.
Bonjour Betty Pitchulli. Je te remercie d'être là pour cette interview. Donc en lisant Chromatopia et Robustia, j'y ai trouvé une critique de la hiérarchie de la société. Est-ce que tu peux développer ce que tu as voulu mettre en avant ?
Oui, alors déjà, bonjour aussi. Je suis ravie d'être là. Quand j'ai écrit Chromatopia puis Robustia, j'avais vraiment envie d'écrire du young adulte déjà. Il y a toujours dans le young adulte quand même une tradition de parler de la société à travers notamment la dystopie et de montrer dans quelles extrémités on peut sombrer. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et dans ces deux livres, j'ai choisi de mettre en avant deux villes, en fait, qui sont des cités-états à chaque fois. Donc pour vraiment avoir la ville qui devient un personnage à part entière du récit et effectivement pouvoir traiter l'aspect sociétal, politique, la construction en fait d'une ville et sa vie au quotidien et les conséquences que ça peut avoir sur ses citoyens. Donc oui, il y avait vraiment une volonté derrière pour moi dans ces deux romans.
D'accord. Et justement, en parlant de construction, je vais m'attaquer à la construction du récit. J'ai été agréablement surprise en fait par la construction un peu originale, justement par des passages intercalés en italique entre certains chapitres. Ce choix est-il une simple valeur de suspense ou tu avais déjà pensé à la double lecture qu'il crée ?
Alors, je me rappelle plus vraiment à quel moment j'ai rajouté les passages. Je pense que c'est arrivé très très vite au début de Chromatopia, parce que j'avais un peu ces phrases en tête d'un personnage en particulier, en fait, qui parle à un autre et on apprend qu'elle a toute faim, qui sont les deux personnages. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de suspense grâce à ça. Il y a beaucoup de lecteurs qui arrivent à deviner au bout d'un moment de qui il s'agit. Et donc là, du coup, ils sont spoilés de la fin en général, surtout dans Robustia. Mais beaucoup d'autres ne voient pas forcément le rapport avant la toute fin. Donc c'est assez intéressant à mettre en place. Et en fait, ça m'a surtout permis de développer une histoire entre deux personnages. Enfin, trois ensuite dans Robustia, qui sont des personnages secondaires, qui sont des personnages dont on connaît les liens, mais qui sont assez en retrait. Donc ça m'a permis en fait de leur donner aussi une voix plus importante, parce que je trouvais leur histoire assez tragique et très intéressante aussi.
D'accord. Les représentations des castes sociales et les statuts sociaux de Robustia semblent emprunter à tout un univers de la littérature young adulte. D'où tiens-tu ton inspiration ?
Alors c'est vrai que j'avais vraiment envie de partir dans un récit vraiment très young adulte, avec les codes qu'on retrouve dans le young adulte habituellement. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup Hunger Games, par exemple. Donc il y avait quand même ça en fond qui m'intéressait beaucoup. Après, il y a eu La Passe Miroir qui m'a un petit peu inspirée aussi sur l'aspect architectural, on va dire, et l'importance de la ville. Du lieu en lui-même dans le récit. Et l'envie, oui, de garder une espèce de tradition tout en bousculant un peu certains codes, parce que j'ai souvent l'impression que dans le young adulte, il y a des raccourcis, on va dire, et des personnages jeunes qui sont d'un coup hyper puissants et qui peuvent renverser un pays tout entier. Bon, c'est pas forcément toujours réaliste. Donc j'avais envie d'avoir une échelle un peu plus petite avec ces cités-états et des personnages qui sont un peu passifs, en tout cas qui n'ont pas l'impression d'être volontaires en fait au début et qui sont un peu obligés malgré eux de se lancer dans les aventures qu'ils doivent avoir.
Et justement, en parlant de personnages, il y a Bian qui a une maladie. Donc moi je l'ai interprété comme justement la volonté de mettre en avant l'endométriose. Est-ce que tu peux développer ce point ?
Oui, donc dans Robustia, on a l'une des narratrices, Bian, qui est une combattante qui est très forte et qui a une vraie volonté d'esprit. Elle est vraiment... elle s'est vraiment forgée son caractère autour de l'idée qu'elle veut gravir les échelons, notamment pour sa famille, pour son père. Et donc elle a tout fait pour arriver au sommet. Et elle, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à être faible, à avoir des failles, etc. Et pourtant, elle a donc cette maladie. Alors, je dis jamais que c'est l'endométriose dans le livre parce que comme je suis dans un contexte médiéval avec très peu de médecine, etc., je trouvais ça plus intéressant de garder un côté un peu inconnu, même si elle est traitée par quelqu'un qui sait exactement ce qu'est sa maladie et ce que ça implique. Donc oui, c'était une volonté parce que en fait déjà on ne parle pas beaucoup du cycle menstruel des femmes dans les romans, alors que quand on a des romans qui se passent sur plusieurs mois, il y a forcément plusieurs cycles. C'est quelque chose qui est beaucoup éludé, et pourtant qui peut avoir des conséquences mais sur les femmes et les aventures qu'elles ont. Dans ce cas précis, Biane, elle est obligée, du coup, dans le récit, à certains moments, de cacher ça, parce qu'il faut qu'elle soit toujours forte et courageuse et qu'elle combatte. Et donc, quand elle a des crises, elle est obligée de se cacher. Et c'était vraiment... je voulais en même temps le montrer et en même temps que cette faiblesse ne devienne pas quelque chose... comment dire, de vu comme négatif en fait, ou sexiste même dans le récit. Je pense que j'ai trouvé un équilibre plutôt intéressant au final, parce que ça ajoute un aspect dramatique à certaines scènes, et en même temps sa personnalité ne se réduit pas à ça, son aventure ne se réduit pas à ça, et elle avance malgré tout en fait.
Tu as écrit également des livres jeux. Qu'est-ce qui t'a mené vers ce genre-là ?
Moi, j'ai pas mal travaillé en fait dans le milieu ludique pendant quelques années. Je travaillais en escape game, et j'avais d'ailleurs un projet à un moment même d'ouvrir mon propre escape game, mais malheureusement ça s'est pas fait. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment écrire de manière professionnelle, je me suis dit que ce serait intéressant pour moi de lier les deux, parce que j'écrivais aussi des murder parties. Et les livres dont vous êtes le héros, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les jeux vidéo à choix, notamment. Il y en a des vraiment hyper poussés, et j'adore ça, j'en fais beaucoup. Et donc, j'ai commencé à démarcher des maisons d'édition avec cette casquette de quelqu'un qui est un peu du côté ludique, et en étant autrice, ce qui est quand même assez rare, parce que le livre-jeu est en train de reprendre un essor alors qu'il a été oublié pendant 15-20 ans. Donc j'ai très vite eu des contrats grâce à ça, notamment avec Larousse, et c'est hyper intéressant. C'est vraiment... une structuration différente, beaucoup de préparation en amont. Il faut s'organiser très bien. J'ai un logiciel, qui est un logiciel d'ailleurs qui est utilisé dans le jeu vidéo, donc pour faire mes arborescences en amont de livres-jeux. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a permis de pas mal développer ma créativité, parce que quand on écrit une histoire, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que le livre dont vous êtes le héros permet d'explorer toutes les possibilités d'une histoire en fonction des choix qu'on fait. Donc c'est quelque chose de très intéressant et un exercice que j'aime beaucoup.
Et justement, cette volonté d'écrire a priori que de la jeunesse, hein, si je ne me trompe pas, elle vient d'où ?
En fait, chaque projet a son public. J'écris pas que de la jeunesse. J'ai sorti un livre en auto-édition aussi pour adultes. En fait, ça dépend vraiment de l'histoire et de ce que je veux en faire. J'ai déjà écrit... alors, le livre n'est jamais sorti, mais j'ai déjà écrit un livre dont vous êtes le héros pour adultes. Il va peut-être sortir un jour, mais la maison d'édition a quelques difficultés pour l'instant, donc c'est pas sûr du tout. Mais oui, j'écris en fait en fonction de l'histoire et de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle nécessite comme public. Et c'est vrai que j'ai plus souvent des histoires qui vont être à destination des ados. Après, j'ai vraiment envie d'essayer plein de styles, de genres différents. Donc, je me refuse rien pour la suite.
D'accord. Et justement, la suite, c'est quoi ?
Alors, la suite. En 2023, j'ai deux romans qui sortent. J'en ai un qui sort chez... C'est deux romans ados, les deux. Un qui sort chez Slalom, qui sera du contemporain Feel Good, qui va s'appeler No Sex Club, qui va parler notamment d'asexualité et de manière plus générale du rapport à la sexualité qu'on a à l'adolescence et de la pression en fait qu'on a en s'imaginant avec ce qu'on voit partout dans les médias, dans les séries, dans les films, que à 16 ans, si on n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est qu'on a raté sa vie. Donc voilà, pour dédramatiser un peu cette pression qui, je pense, se transmet de génération en génération. Et puis j'ai un autre roman qui est un livre dont vous êtes le héros, qui va sortir chez Rajo en juin 2023. Les deux vont sortir quasiment à la même date, c'est assez rigolo. Et ça, ce sera un roman d'horreur qui se passe dans les années 90, qui va s'appeler Urbex Mortel. Et l'idée, c'est qu'on va être dans un manoir hanté par une adolescente. On va suivre, incarner cette adolescente qui va suivre un groupe de jeunes venus explorer le manoir laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Et malheureusement, les jeunes vont commencer à décéder. Et en fonction des choix du lecteur, de bouger le fantôme d'une pièce à une autre, ils influenceront l'histoire et les morts. Voilà.
Bonjour Betty. Moi, j'ai aussi des questions qui ont à voir que de très loin avec tes écrits. Je reviens un petit peu sur l'une des premières fois ce que tu as dit en disant que tu voulais absolument écrire du young adult, notamment pour sa position assez ferme en tant que critique sociale et sociétale. Pourquoi est-ce que le young adult est forcément une critique? Quel est l'intérêt de ce média?
Je pense que le young adult, déjà il y a une tradition anglo-saxonne du young adult qui s'est transmise en France. Et on s'adresse à des adolescents, à des jeunes qui arrivent dans la société et qui ont peut-être envie de la changer, en fait. Et il y a vraiment ça derrière, pour moi, dans le young adulte, de ne pas accepter l'ordre établi et de vouloir avoir un certain espoir par rapport à, justement, le désespoir qu'on peut éprouver de certaines choses. Et dans le young adulte, il y a aussi beaucoup de thématiques très, très personnelles, en général, sur la construction de soi, la découverte de la sexualité, l'affranchissement pour devenir un adulte et ne plus être un enfant. Enfin voilà, il y a ce genre de choses qui du coup vont bien en général avec des thématiques de rébellion, d'affranchissement, etc. Donc ouais, c'est un genre qui me parle beaucoup. Ouais.
Ok. Plutôt que de faire de la critique dans des romans adultes où c'était une critique posée sur la civilisation, tu prends le parti de dire qu'il y a toute une jeunesse à former et que c'est bien de leur donner la critique maintenant.
Oui, moi j'aime bien m'adresser aux jeunes parce que je trouve que ils sont plus cash, ça m'intéresse.
Est-ce que tu pourrais juste définir jeune, s'il te plaît?
Alors déjà j'aime bien m'adresser aux enfants parce que effectivement dans la littérature jeunesse on peut transmettre plein de choses et qu'on est face à aux adultes de demain qui sont en pleine construction. Les ados c'est aussi très intéressant parce qu'il y a plein de questionnements internes qui sont très forts, et une espèce de sentiment souvent de solitude, d'être le seul à vivre une situation que pourtant plein de gens vivent. Enfin voilà, il y a un truc comme ça et je trouve ça intéressant peut-être aussi d'écrire les livres que j'aurais bien aimé lire à l'adolescence et qui auraient pu m'aider dans certaines problématiques. Et moi j'aime bien l'aspect jeunes adultes, donc on a tendance, quand on parle young adulte, à se dire que c'est jusqu'à 18-20 ans. Moi, je placerais ça encore un peu plus haut, jusqu'à 25. Donc vraiment cette période où on devient un adulte, quoi. Mmh. Je trouve que c'est assez intéressant à travailler. En plus, il n'y a pas encore ce truc un peu sérieux des adultes d'avoir... comment dire, d'avoir tempéré sa créativité, tempéré ses rêves, tout ça. Donc il y a encore un champ des possibles que je trouve intéressant en fait.
Tedo remonte en cycle et est affiché comme étant un cycle féministe et féminin. Pas de souci là-dessus. Et j'ai juste une question qui me taraude. Ton personnage féminin de Brienne est un personnage fort, conquérant, capable de tout. Et un de ses traits marqués dans l'histoire, c'est son cycle biologique. Pourquoi cette prise de parti? Est-ce que ça joue pas contre elle?
Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà exploré en fait dans Chromatopia, puisque la princesse dans Chromatopia, améthyste, même si elle est très indépendante, même s'il n'y a pas de patriarcat dans ce monde, il y a des disparités, il y a des discriminations qui sont autres en fait. Je voulais vraiment me détacher des discriminations dont on a l'habitude dans notre monde pour montrer que une discrimination c'est vraiment quelque chose d'artificiel et que c'est vraiment une construction sociale en fait. Et dans Chromatopia, effectivement, Améthyste, elle doit se marier et elle doit faire un enfant pour son héritage. Donc déjà, on avait une jeune fille qui était, malgré l'absence du patriarcat, définie finalement par sa capacité de reproduction. Et Bian est dans le même, effectivement, dans le même acabit, mais par contre, c'est son cycle qui est important et jamais l'aspect reproduction. J'ai pas l'impression que ça joue contre elle parce que elles arrivent quand même toutes les deux à s'en affranchir et à faire autrement et à faire avec. Donc c'est bien la preuve qu'elles ont d'autres possibilités une fois qu'elles dépassent les carcans discriminants en fait de leur société. Même si effectivement c'est une réalité biologique et j'ai pas non plus envie de faire passer le message que les femmes sont définies parce qu'elles ont un utérus et parce qu'elles ont un cycle, ça c'est vraiment pas du tout mon propos. Mais voilà, il y a quand même cette réalité et les contraintes de leur société font qu'elles sont un peu coincées par ça pendant un temps. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnages féminins qui sont pas du tout définis par ça. C'est le cas de Jacinta qui, elle, fait sa vie sans se préoccuper de tout ça, quoi.
Restons sur le principe du cycle biologique féminin, parce que c'est quand même un sujet fort dont on ne parle pas beaucoup. Et partons maintenant dans les arts ludiques, les jeux vidéo. Toi comme moi, on est joueur depuis très longtemps, et récemment une étude est sortie disant que moins de 2% des jeux vidéo sur lesquels on pouvait avoir accès, les femmes étaient représentées, le personnage principal était une femme, avec une différence avec un personnage principal masculin. Dans la majorité des jeux vidéo de rôle, on peut choisir un sexe, mais il n'y a pas de différence finalement entre les deux. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à mettre une femme avec un cycle, ou un homme avec un cycle d'ailleurs, dessus?
Alors moi j'aime bien l'idée quand même qu'on fasse pas de différence entre un personnage masculin et féminin. Moi par exemple, je pars du principe dans mes livres, la plupart du temps, que je pourrais changer le genre de n'importe quel personnage et que ça changerait strictement rien à l'histoire. Mais effectivement, si on est dans une quête de réalisme, il y a cette réalité-là qui pourrait être mise en avant. Pour moi, tant que c'est fait de manière réaliste et pas caricaturale, ça peut être intéressant. Et s'il y a en plus peut-être un message derrière de prévention ou effectivement moi si j'ai parlé d'endométriose c'est aussi parce que ben malheureusement scientifiquement il y a très peu de recherches qui sont faites autour des femmes, autour de plein de choses en fait. Tout ce qui ne concerne pas les hommes est beaucoup moins étudié. Donc voilà, il y a quand même un très gros souci là-dessus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de mettre en avant cette différence-là au final.
On va partir sur les livres-jeux dont tu parles. Et tu me dis que Larousse a sorti un livre-jeu. Larousse, il ne sort absolument aucun livre de genre. Pourquoi est-ce que le livre-jeu, les arts ludiques, sont plus acceptés par un éditeur traditionnel qu'un livre de genre?
Alors, c'est Larousse jeunesse, et c'est vrai que les livres-jeux ont fait leur retour et il y a, on va pas se mentir, un petit business que beaucoup d'éditeurs généralistes et d'éditeurs peut-être plus de manuels, de ce genre de choses, et d'éditeurs de jeux, voilà, tout, ils se sont tous un peu emparés de ça. D'ailleurs, on voit quand on va dans des librairies, notamment des grosses librairies, Fnac, tout ça, il y a des tables mise en avant de jeux d'apéro, de voilà, de d'escape game à faire chez soi, etc. C'est devenu un petit business. Moi, je pense que maintenant il y en a trop et que ça va très vite se calmer, et que je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pas à la hauteur parce que justement on manque peut-être un peu de compétences de ce côté-là. Et c'est un peu dommage parce que le livre-jeu à la base est quelque chose de quand même très, très codifié, avec énormément d'emprunts aux jeux de rôle notamment, et des univers qui vont dans ce sens-là. Après, il y a des très bonnes choses, et en fait, je trouve qu'il vaut mieux aller du côté des indépendants pour trouver des choses vraiment de qualité.
On va continuer sur le portrait chinois. Si tu étais un personnage de cinéma, lequel serais-tu ?
Ben moi, j'adore Forrest Gump. je sais pas si j'aimerais être Forrest Gump parce qu'il a eu une vie très dure quand même, mais j'aime beaucoup sa naïveté, sa sensibilité sur le monde, en fait. Je trouve qu'il comprend beaucoup mieux la plupart des gens. Et du coup, Forrest Gump.
Et si tu avais à choisir d'être un élément magique, lequel serais-tu ?
J'ai toujours adoré tout ce qui était... ça m'a toujours fasciné le côté aquatique, donc genre maîtriser l'eau, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas un élément. Donc oui, un pouvoir permettant de maîtriser l'eau.
D'accord. Et donc, si tu étais cette fois-ci un personnage littéraire, lequel serais-tu ?
Eh bien, je serais Lyra Belacqua dans À la croisée des mondes. Parce qu'elle est trop cool. Ouais.
Alors, je vais me permettre une question sur ce portrait chinois. Dans la plupart des portraits chinois que nous faisons, nous faisons appel à l'altérité. Je vais te demander de changer de genre. Je vais te demander d'être un personnage politique français qui a changé ou qui aurait pu changer le monde. Un personnage.
Un homme politique
Ouais. Dans la globalité, un maire, un acteur politique, du moment qu'il a eu une action politique.
Et un homme, du coup.
Et un homme. Et il n'y en a pas beaucoup de lui.
Alors, il faut trouver quelqu'un qui n'a pas de scandale de harcèlement sexuel, quelqu'un qui n'a pas détourné d'argent.
Je vais te demander un animal politique, du coup.
Non, mais un homme politique... Philippe Poutou. J'aime bien Philippe Poutou.
Et donc, pour finir cette interview, quelle musique souhaites-tu partager aux auditeurs ?
J'écris énormément en écoutant Max Richter, qui est un compositeur qui a notamment fait la musique de ma série préférée, The Leftovers. J'estime que je devrais reverser 50% de ce que je gagne en droit d'auteur à Max Richter. Parce que vraiment, je l'écoute énormément et qu'ils m'aident énormément à me mettre notamment dans des situations tristes, mélancoliques, etc. Donc ouais, je dirais la BO de The Leftovers par Max Richter.
Très bien. Nous te remercions pour cette interview.
Merci beaucoup.
Et merci à Betty Piccioli d'avoir choisi Max Richter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Et du coup, j'en ai acheté une compile pour Noël.
T'as craqué.
Ouais, je me suis remis à écouter ce compositeur que j'avais découvert avec la musique de Valse avec Bachir il y a longtemps. D'accord. Mais il continue. Et notamment, il fait beaucoup de bandes originales de films, de séries, etc.
Ah, bien.
Ouais.
C'est vraiment chouette, effectivement.
Est-ce que tu as des choses à annoncer dans l'agenda, Karine ?
Moi, non. Pas bon. Spécialement, je pense...
Le message, c'est juste aller faire vos courses de Noël chez les libraires.
Oui, oui. Venez du côté de Montreuil-Junier, tout particulièrement.
Il y a aussi le Noël de Fishbrain, où on peut s'acheter des... poster de Candice Roger et se faire imprimer aussi certains de ses motifs hein, sur des t-shirts, des sacs, des suites et tout. Ouais, c'est cool. Candice qui est en train de bosser sur notre affiche,
oui,
notre, qui sera aussi la couverture de notre anthologie de 2023. Double jeu.
Oui. On a hâte.
Ouais, on a hâte de voir ça. Ça va donner. Et puis moi je voulais dire aussi que les copains d'Augezor allaient être en concert à Saint-Herblain, ce sera le dimanche 8 janvier, et ce sera gratos à l'Aka Shelter, je ne connais pas cet endroit, où on peut trouver apparemment des vélos, des burgers, de la bière,
oui.
Et aussi des concerts, alors c'est cool.
Tout un panel de choses diverses.
D'activités plaisantes. On se retrouvera en deux semaines... dans Imaginaire sur le 101.5, une émission probablement enregistrée. Je ne pense pas qu'on la fera en live. On va enfin pouvoir écouter l'interview de VS que Sébastien avait essayé de nous prévoir pour une émission précédente qui a écrit les... Je ne me rappelle même plus de... Enfin bon, c'est le prix du livre-jeu 2021, je crois. Et puis peut-être aussi une interview réalisée aux Utopiales.
Sans doute.
Pedjelica, par exemple, et tout. Il faut juste qu'on la traduise.
Oui.
Et on va terminer en musique avec Vandalorum. Je vais essayer de nous le mettre un peu dans le fond. C'est pas une chanson pour s'endormir non plus, parce qu'il y a les voix du scénarium dans quelques minutes sur Radio G. Un morceau qui va plaire à Betty Piccioli, parce que dans son portrait chinois, elle a dit qu'elle aimerait bien avoir le pouvoir de... comment je dirais de jouer sur l'eau, enfin jouer sur l'eau, prendre le, comment dire, voilà, j'arrive pas à le décrire. Aide-moi, Karine.
Je ne sais pas du tout.
Le pouvoir de contrôler les éléments liquides, je dirais. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Et cet album, hein, le nouveau Vandalorum, qui est un split album avec l'Italien Tide Monster, ça s'appelle Antediluvian Secrets et c'est un disque qui est consacré aux univers aquatiques.
Bien.
Inspiré par Atlantis et les civilisations englouties pré-bibliques, nous disent-ils. Donc on termine avec le morceau A Mist Hangs Over the Water. Il y a une brume au-dessus de l'eau. Donc on va se quitter là-dessus. Bye bye.
Bonne soirée.
À bientôt. Restez à l'écoute de Radio G, les voix du scénarium dans quelques minutes.
101.5 FM.